Mesdames, Messieurs, chers collègues, si le cours que je donne le mercredi s'occupe surtout de grands classiques de la tradition gréco-latine, notre séminaire a été inauguré par François Dupuis-Grenet, qui nous a présenté la longue histoire philologique, littéraire, musicale du pater. Donc, l'une des grandes prières, l'un des grands textes des évangiles. Évidemment, la Bible mériterait plus de séances que celles que nous pouvons lui consacrer. Mais je suis content qu'au moins aujourd'hui, nous puissions bénéficier d'une analyse sur la longue durée de la tradition franciscaine. Tradition qui remonte aux origines de la textualité en langue vulgaire italienne. Comme vous le savez, le Cantico delle Creature, ou Éloge du Frère Soleil, est le premier texte en langue italienne du Moyen Âge. On pourrait dire que la langue italienne commence par cet immense éloge de la création rédigé personnellement par saint François juste avant sa mort. La tradition franciscaine, vous le savez, est multiple, a donné lieu dès le commencement à différentes vies de saint François. Au cours du XIIIe siècle, il y a un foisonnement de vie de saint François, à tel point que saint Bonaventure est obligé d'en rédiger lui-même une et définitive pour essayer un peu de maîtriser ce foisonnement qui continuera dans les Fioretti. Et ici même, en France, Jacques de la Rang, André Vaucher, ont donné des contributions essentielles à cette immense tradition qui s'est multipliée au niveau des textes, mais qui s'est multipliée aussi au niveau des familles franciscaines. Et il y a eu un renouveau extraordinaire à la fin du XIXe siècle, mais là, ce sera notre conférencier à en parler, de sorte que ce XXe siècle a hérité doublement des origines et du XIXe siècle, le XIXe siècle de Sabatier, de Taude, etc. Ce qui fait que ce siècle a commencé avec, par exemple, un pape qui a voulu se donner le nom de François, alors que jamais, dans la tradition de la papauté, aucun pape avait osé prendre sur soi le nom de François. Donc, c'est l'une des grandes traditions. Et je crois que nous avons la possibilité au moins de creuser un peu ce chemin. En plus, Giacomo Iori, qui enseigne la littérature italienne à l'Université de la Suisse italienne, est bien placé pour en parler, puisque précisément dans ses études, il a travaillé cette tradition franciscaine, et notamment la suite et les commentaires des Lodes de Jacopone da Todi, ensuite encore cette présence à la Renaissance, notamment chez le Tasse, et puis chez les grands mystiques du XVIIe siècle italien. Ensuite, il a travaillé le XIXe siècle et maintenant surtout le XXe siècle, publiant et en faisant connaître des textes rarissimes, inédits quelquefois, de Mario Soldati, de Mario Lattes, de Barbara Allison, et maintenant les poèmes de Furio Iesi, qui est l'un des grands interprètes du XXe siècle italien. Pour cette raison-là, il est donc un interprète très autorisé, et je terminerai en rappelant son livre sur Pier Paolo Pasolini, l'un des grands classiques, dont il sera certainement question dans cette matinée, qui, encore une fois, et fort heureusement pour nous, ne fait pas la séparation des disciplines. L'art est toujours un art au sens pluriel des termes, donc il y aura la littérature, le cinéma, exactement comme la semaine prochaine, je vous l'annonce déjà, nous aurons cette tradition musicale, littéraire musicale, théorie musicale, débat de poétique, dans l'interprétation de quelques classiques du XVIe siècle musical qui sera donné par Brenno Boccador. Je suis vraiment très reconnaissant et je laisse donc la parole à M. Giacomo Iorio.
Cher maître, mesdames et messieurs, je suis très reconnaissant à M. Ossola de cette invitation à parler dans son séminaire sur le thème de son cours de Pier Paolo Pasolini ici au Collège de France, parce que c'est une occasion précieuse. Parce que Pasolini, on le sait, tout le monde, est un auteur qui est très aimé, élu et traduit en France, et il avait des liens profonds avec la France. Alors, mon intervention à laquelle je viens est intitulée, comme vous le savez, « Tradition et legs, le Saint-François de Pasolini », dans le cadre plus général du thème « Comment hériter, comment léguer », auquel j'adhère étroitement, et j'ai l'intention de partager mon intervention, de l'articuler en trois parties. Alors, la première est consacrée au thème et au problème, par un exemple que je vous montrerai, à l'assimilation et à la transformation du texte du Decameron de Boccace, à ce film que je vous montre ici. Il y a le DVD de la version avec les sous-titres français, Uccellacci Uccellini, les oiseaux petits et grands de Pier Paolo Pasolini. La deuxième partie, et c'est la partie centrale de mon intervention, est consacrée au thème du titre, le Saint-François de Pasolini, et c'est plutôt le thème de comment léguer. Et une troisième et conclusive partie sur aussi quelques réflexions sur comment hériter et peut-être aussi comment léguer Pier Paolo Pasolini même. Et les trois parties, on le verra, sont liées. Je commence en disant que parler de Saint-François dans l'œuvre de Pier Paolo Pasolini signifie surtout mettre au centre de notre lecture, de notre considération, les environ 30 minutes du film que j'ai cité, Uccellacci e Uccellini, les oiseaux petits et grands, consacré par Pasolini à la légende franciscaine et à sa tradition. Alors, c'est surtout ce texte, et je dis texte pour des raisons qu'on verra, qu'il faut analyser. C'est une partie du film, le film est de 1966, c'est une partie du film qui est une, on le verra parce que j'ai l'intention de vous la montrer au terme, c'est une mise en abîme du film même. Il y a le film qui est ambienté, si vous ne l'avez pas vu, dans le XXe siècle, dans le deuxième après-guerre, dans une périphérie urbaine en Italie. Et puis, dans la première partie du film, vraiment comme une mise en abîme, en flashback dans l'Italie centrale du 1200, du XIIIe siècle, avec les mêmes auteurs qui sont les mêmes acteurs qui sont protagonistes de la partie intégrale du film, c'est-à-dire Totò et Ninetto Davoli, qui dans l'épisode franciscain s'appelle Frate Cicillo, c'est le même Totò, et il garde son nom Ninetto. Il faut résumer le film entier, et ce n'est pas difficile de le faire. La trame est très simple. Il représente le chemin à travers les routes de la périphérie d'une ville, c'est Rome, vers une destination inconnue, de Totò et de Ninetto, qui sont père et fils. Dans le film, les acteurs gardent leur nom. Et le long ce chemin, dans les rencontres qu'ils font. Le principal de ces rencontres, c'est avec un corbeau. C'est un corbeau parlant, comme dans la tradition ésopienne. de la fable ésopienne. Et il parle avec la voix d'un ami et collègue de Pier Paolo Pasolini, c'est-à-dire de Francesco Leonetti, qui avait été avec Pasolini et Franco Fortini et des autres, cofondateur de la revue Officina dans les années 50. Comme je disais, Le Corbeau parle et les choses qu'il dit nous font comprendre très bien qu'il est le symbole, et Pasolini le déclare plusieurs fois, le symbole de l'idéologie qui essaye de communiquer, de se faire écouter par les prolétaires, Totò e Ninetto, de la périphérie urbaine dans l'Italie du miracle économique, nous sommes dans 1966 du deuxième après-guerre, et aussi, surtout, il est le symbole, ce Corbeau parlant, des apories de ces tentatives d'une pédagogie par l'idéologie, d'un dialogue. En effet, le film se situe chronologiquement juste après la mort de Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti avait été parmi les fondateurs du Parti communiste italien, son chef dans le deuxième après-guerre jusqu'à sa mort, presque un chef absolu. Ses funérailles, en effet, dont une séquence des images réelles est citée dans le film, presque au terme, sont aussi, dans le film même, le symbole de la crise des idéaux de libération de la classe ouvrière dans l'Italie du boom. Et c'est une crise qui, à laquelle Pier Paolo Pasolini avait commencé à se consacrer à partir environ des poèmes, en poésie, des poèmes du Sandro de Gramsci, les Sandro de Gramsci. C'est-à-dire déjà dans ce titre, du Gramsci, fondateur soit de l'Unità, soit lui aussi du Parti communiste italien, ne reste 1957 déjà que les cendres. Eh bien, c'est ce Corbeau qui parle, a proposé à Totò et à Ninetto de lui raconter en apologue, je cite, « une étrange histoire des oiseaux petits et grands, situés, comme je vous disais, dans le XIIIe siècle, dans le 1200 ». L'épisode franciscain qui nous intéresse et sur lequel je reviendrai. Maintenant, pour, disons, pour la première partie de mon exposition, parce que le thème général du séminaire est « Comment hériter, comment léguer », je veux au début illustrer peut-être ce rapport entre héritage d'une tradition et legs, pour ce qui concerne le travail de Pasolini, en essayant d'aller au cœur de sa façon de lire les textes, de les hériter, des textes importants d'une tradition séculaire comme la tradition du Décaméron maintenant, et le legs de son œuvre. Et je m'appuie sur un exemple tiré par ce film, donc, Uccellacci Uccellini, mais pour l'instant hors de l'épisode franciscain, tiré de la partie des discours du Corbeau. Pour vous montrer comment, dans le rapport avec la tradition qu'il paraphrase et dans le legs de son œuvre, Pasolini travaille, et ça c'est le premier point que je tiens à souligner, il travaille avec une fidélité littérale au texte radical. On voit vraiment qu'il adhère au texte, mais à la lettre des textes. Il ne faut pas oublier que deux ans avant, 1964, Pier Paolo Pasolini avait tourné l'Évangile selon saint Matthieu, qui est presque, il faut le colloquer dans un genre, une paraphrase évangélique. Il n'y a rien d'ajouter au texte de l'Évangile dans le film de Pasolini. C'est vraiment plusieurs fois presque tout le temps dans le film n'est cité que l'Évangile et les dialogues de l'Évangile de Matthieu. Et alors nous voyons que toutefois, en assimilant et en citant, élaborant littéralement les textes de cette façon, il a de temps en temps une extraordinaire liberté d'invention, comme dans l'exemple que je vous montre. Alors, il faut faire référence au texte numéro 0 de l'exemplier, c'est le texte de Boccace, c'est 0 parce que c'est hors du parcours franciscain, mais c'est un prologue à mes considérations. C'est le conte 9 de la journée 5e du Décaméron, Vous avez le texte soit italien, soit la traduction française. Vous savez, c'est Federigo degli Alberighi. Le nom appartient à l'onomastique de la Divina Commedia de Dante. C'est une ancienne famille de l'Italie médiévale qui sacrifie pour donner quelque chose à manger, pour honorer la visite de sa bien-aimée Monna Giovanna, son faucon, qui est, ça, disons, résume toute son économie parce qu'il avait tout gaspillé pour faire des cadeaux, des fêtes pour Monna Giovanna, qui ne l'aimait pas, et qui s'est rendu chez lui pour lui demander le faucon même, mais il ne le sait pas. Et il donne à manger à sa femme ce faucon, qui est aussi le symbole d'une idéologie, d'un système des valeurs du Moyen-Âge, c'est-à-dire la civilisation courtoise. C'est la chasse au faucon de Federigo di Svevia, etc., qui est cerné par Boccace et mis dans ce conte, dans le Décameron. Au terme, nous voyons que ce faucon et ce symbole, qui est si important pour le protagoniste du conte, est tué. Sans plus réfléchir, il lui tordit le cou, senza più pensare, tiratogli il collo. Puis on verra des images. Et puis, quand la femme lui demande ce faucon, et il doit constater malheureusement que le faucon a été sacrifié pour donner quelque chose à manger à elle, il fit jeter au pied de la dame, et comme autant de preuves, et vous pouvez suivre le texte italien, le penne e i piedi e il becco, le fait in testimonianza di ciò gittare avanti. Il fit jeter au pied de la dame, et comme autant de preuves, les plumes, les pieds, les pattes et le bec de l'oiseau. Ce sont trois membres, ce qui reste du faucon. Alors, pour retourner à Pasolini, on peut imaginer qu'il connaît par cœur le Décameron, parce que 1961, il réalise le Décameron, son Décameron, toujours pour le cinéma. Et nous savons qu'il travaille depuis longtemps à ce texte, qui est un classique, qui lui intéresse beaucoup. Si nous allons aux images, à une séquence presque conclusive du film Des oiseaux petits et grands, nous voyons presque la même scène du conte de Boccace. Alors, je m'excuse pour la mauvaise qualité des images, ce sont des photos prises par l'ordinateur en bloquant le film. Vous voyez, c'est la main de Toto. Il faut rappeler qu'à la fin du film, Toto et Ninetto se regardent, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il nous dit ce corbeau? On pourrait le manger. Il le prend, Toto, il lui tord le cou, comme vous voyez, et puis, dans trois coupes qui correspondent exactement au texte du Boccace, le film, Pasolini, nous fait voir ce qui reste, non plus du faucon, mais du corbeau. Les pennes et i piedi e il becco. Et vous n'avez pas ce texte, parce que je l'ai ajouté après, du scénario du film Uccellacci Uccellini, c'est la même chose. I resti del corvo, un po' di penne, le zampette, il becco. Voilà, il lui fait tordre le cou, et puis les pattes, premier coup, des plumes, et peut-être on ne le voit pas bien, le bec et des os, et non, voilà ici, les plumes. Mais ce qui compte, c'est que cette image sont trois dans le film, comme dans la prose du Boccace. Alors, il y a, on peut dire, si j'ose dire, peut-être dans cet acte de manger des symboles, le faucon courtois et le corbeau idéologue, de Boccace à Pasolini, peut-être quelque chose d'eucharistique qui se cache dans cette scène, comme je disais, du même auteur de l'Évangile selon saint Matthieu. C'est un geste extrême, l'acte de tuer les corbeaux et de le manger, qui exhibe le défi à l'idéologie progressive portée par un monde et une réalité qui la surpasse. Et toutefois, cette scène peut-être cache aussi, comme je disais, cette citation et nous montre en même temps une fidélité littérale au texte d'un classique, d'un conte de Boccace et la capacité de le transfigurer, de le transformer. Peut-être que, soit dans Boccace, soit dans Pasolini, cet acte de manger le symbole d'une tradition nous dit quelque chose d'important aussi sur le thème « comment hériter, comment léguer ». Il faut en même temps savoir conjuguer, unir cette capacité d'être fidèle à une tradition et surtout à sa lettre, et de la léguer en la transfigurant dans une œuvre, comme dans l'œuvre de Pasolini. Le symbole de Boccace à Pasolini se transforme avec la plus grande liberté d'invention, du faucon courtois au corbeau noir et pétulante d'une idéologie qui a été vaincue, surpassée, toutefois à laquelle Pasolini reste toujours fidèle, mais reste la fidélité d'un legs qui reconnaît un geste fondamental, essentiel, dans l'acte de manger le symbole. Et puis, sur ce terme, manger, je reviendrai. En tant que, et ça c'est aussi important, ça ne compte pas seulement les manger, en les assimilant. Parce que manger, ça veut dire aussi peut-être assimiler, de les incorporer. Pour ça, quelque chose d'eucharistique. Maintenant, je viens à la deuxième partie, à mon thème, le Saint-François de Pier Paolo Pasolini, au cœur des textes. Examinons en détail, avec l'aide des textes dans l'exemplier, de l'épisode franciscain de Uccellacci Uccellini. Je vous ai déjà dit que Pasolini venait de l'expérience de l'Évangile selon saint Matthieu, donc c'est déjà être fidèle à l'imitatio Christi, si on peut le dire, de la tradition franciscaine et de François. Il faut aussi souligner, pour encadrer historiquement ce film et cet épisode franciscain, c'est très important, qu'il aimait, Pasolini aimait beaucoup le film de Rossellini, qui était du 1950, Francesco Giullare di Dio, François Jongleur de Dieu, qui était en 1950 manifeste pacifiste face à la menace d'une guerre atomique. Plus encore de Rome, città aperta, auquel Pasolini consacre des vers célèbres, c'est ce film, Francesco Jongleur de Dieu, que Pasolini considère un des chefs-d'œuvre de Rossellini. Il l'écrit plusieurs fois, et aussi du néoréalisme italien, dont notre épisode franciscain, vous le verrez, c'est d'une certaine façon la commémoration vers la fin des années 60. J'ai choisi ce texte et cet épisode du film parce que, on le verra tout de suite, ce n'est pas seulement, disons, un texte qui utilise la tradition franciscaine, mais pour notre thème, il représente, il met en scène le geste même presque de léguer, de confier une mission. Et ce geste est fait pour saint François même. La source principale de l'épisode est le sermon de saint François aux oiseaux, qui, des origines de la tradition franciscaine, est parmi, vous le savez, les plus mémorables et célèbres de la légende hagiographique de saint François. À partir, vous l'avez dans l'exemplier, c'est le texte numéro 1, de la Vita Prima en latin, puis il y a des traductions italiennes et je vous ai reproduit ici la version italienne de la Vita Prima de Thomas de Celano, di Tommaso da Celano, le texte 1. Voici, nous pouvons constater encore cette fois, pour la tradition franciscaine, comme on l'a fait pour le Decameron, que Pasolini est fidèle à la lettre du texte. Il travaille sur les textes à partir de leurs lettres, de leur littéralité. Il choisit cet épisode, bien sûr, parce qu'il a un lien structural avec un film consacré au thème des oiseaux. Et alors, c'est dans la piété populaire aussi du catholicisme, et surtout du catholicisme italien, dans l'imaginaire populaire, ce sermon aux oiseaux, on ne pouvait pas concevoir un film comme ça, ne faisant pas le con avec cet imaginaire franciscain de Saint-François qui se met en dialogue avec des oiseaux. Et voici, on sait, il y a toute une tradition de ce sermon aux oiseaux à partir du Thomas de Celano. Mais j'ai choisi de vous reproduire le chapitre 21 de la Vita Prima parce que nous voyons, il y a des index textuels que Pasolini travaille sur ce texte. Alors, il fait dire, je vous montre le premier exemple, au texte 2, vous avez le film, j'ai distingué entre le film, 1966, et même année, le scénario. Pasolini appelait ce film « cinéma di poesia » parce qu'il avait l'habitude de les écrire et de publier les scénarios avant la parution du film, sauf que pour le dernier, Salò. Tous les autres sont publiés avant la sortie dans les salles. Et alors, vous avez, entre parenthèses, la distinction qui est très importante, on le verra, entre film et scénario. Ici, je cite le film. Il y a une sorte de présentation entre le corbeau, quand il se rencontre, et Totò, seulement le corbeau et Ninetto. Le corbeau se présente à Ninetto, au début de leur rencontre, et ils disent I miei genitori sono il signor Dubbio e la signora Coscienza. Qui sont les parents de l'idéologie? Sont Monsieur Doute et Madame Conscience. Et Ninetto d'Avoli répond, Ninetto dans le film, moi, par contre, je suis Ninetto. D'innocenti Totò, Totò des innocents, et de grâce la très simple, Semplicetti grazia. Et il semble une invention du registre de Pasolini. Pas du tout. Il faut retourner au chapitre 21 de Thomas de Celano. Nous voyons au cœur du texte, dans le premier paragraphe, aussi dans le texte en latin, je vous ai fait noter avec le noir, c'est Thomas de Celano qui évoque la vertu franciscaine, déjà monastique, mais maintenant franciscaine, de la simplicité. Et ils disent que François, qui prêche aux oiseaux, était simple par grâce et utilise cette formule simples grazie. Et c'est la même formule qui donne nom à la mère de Ninetto, fils de Semplicetti grazie. Donc vous voyez un lien littéral entre qui traverse les siècles entre cette tradition et le travail de Pasolini. Donc une simple formule latine sur une vertu franciscaine devient le nom d'un personnage. Mais, disons, cette fidélité au texte de la tradition franciscaine et surtout du chapitre 21 de Thomas de Celano regarde plusieurs autres aspects, soit du scénario, soit du film, et il faut les mettre en parallèle. Pour commencer, si vous avez la patience de me suivre, on les analyse plus en détail. L'épisode de François de Celano et aussi peut-être dans le reste de la tradition est partagé, articulé en deux parties. Et aussi dans le film, le sermon aux oiseaux, qui n'est pas accompli par Saint François, est articulé en deux parties. Puis, le scénario, c'est le texte 3 de l'exemplier, cite directement Thomas de Celano. On peut le constater encore une fois, cette fois avec l'aide de la traduction française. Vous avez au début du texte, c'est le texte 1, traduction française, comme Saint-François de Bevagna, il rencontra rassemblés par bandes entières des oiseaux de tout genre, des ramiers, des corneilles et des freux. Il y a en trois membres un petit catalogue des genres des oiseaux et dans le scénario de Pasolini, numéro 3 de l'exemplier, une sorte de grande citation et en même temps amplification de ce catalogue. Se ne stanno fermi tra i rami, ils sont parmi les branches, 7, 8, 10, 20 par branche, de toutes les races et de toutes les couleurs. Et puis, un catalogue avec tout l'onomastique des races, des espèces, des oiseaux. Et c'est donc une façon de, soit d'être fidèle, soit de recréer le texte, de ne faire une réécriture. Puis, vous voyez que il cite aussi Thomas de Celano. Quand le texte de Thomas de Celano fait voir que Francesco dit aux oiseaux, vous devez être reconnaissant au Créateur parce qu'il vous a donné comme demeure le ciel. Et dans le texte de Pasolini, fratelli miei uccelli, frères oiseaux, vous devez, selon votre possibilité, remercier votre Créateur que vous a donné par éléments nombles comme demeure le ciel. Vous avez les cieux nuageux ou sereins. Et ici, c'est une citation dans la citation, Pasolini, qui veut souligner la fidélité à la tradition franciscaine. Pasolini ne se limite pas à citer un point de Thomas de Celano, mais inscrit une citation du cantique même de Saint-François, parce que « avete il cielo nuvoloso o sereno », le ciel nuageux ou serein, c'est une citation directe du cantique du frère soleil ou des créatures, « laudato si mi signore per frate vento per aere nubilo et sereno ». Vous voyez ce sont les mêmes deux adjectifs, etc. Mais il y a un changement entre le scénario et le film, un changement radical, que, tandis qu'il change, montre toutefois d'essayer, de la part de Pasolini, encore plus fidèle à la lettre de la tradition. Dans le texte 4, Saint-François ne cite plus Thomas de Celano. Saint-François se prêche aux oiseaux en citant des vers de 1964 de Pier Paolo Pasolini. Vous les avez en note, vous avez, c'est le texte 4 de l'exemplier, San Francesco, voi che non volete sapere, voi che vivete come assassini tra le nuvole, etc. C'est le sermon de François aux oiseaux et ce n'est plus la citation de Thomas de Celano, mais c'est un poème du Pasolini même. Qui citait à sa fois ce poème en forme de croix, donc l'Imitatio Christi, propre de la tradition franciscaine, des stigmates de Saint-François, mais aussi avec un écho direct, vous pouvez le constater, au discours de la montagne, du Christ, non pas du François, qui est évoqué par François dans Thomas de Celano, par Pasolini et maintenant dans le film. Donc c'est la façon d'être fidèle à la tradition, remontant à sa source, c'est-à-dire au discours de la montagne, qui est, et aussi aux béatitudes qui sont en écho avec ce texte. Je ne veux pas le lire entièrement, mais vous pouvez facilement le constater. Et dans un poème en forme de croix, c'est-à-dire un poème qui essaye donc de réaliser dans le corps même de la poésie l'imitatio Christi, qui est peut-être le message plus radical de la spiritualité et de la tradition franciscaine. Donc, vous voyez par cet exemple cette fidélité. En plus, dans Thomas de Celano, on peut continuer à faire voir des éléments de cette fidélité. Il y a aussi dans la tradition franciscaine la première référence historique à la composition par Saint-François du Cantique du Frère Soleil. C'est le paragraphe 58, traduction française de Thomas de Celano, texte 1 de l'exemplier. « À partir de ce jour, il ne manquait pas d'exhorter tous les oiseaux, tous les animaux, les reptiles et même les créatures insensibles à louer et aimer les créateurs, car à l'invocation du nom du Sauveur, il faisait tous les jours l'expérience de leur docilité. » Voici évoqué pour la première fois, Thomas de Celano ne parle vers la mort, vers la fin de la vie de Saint-François directement, mais déjà évoqué le cantique. Le même cantique que est cité par Pasolini, nous l'avons vu, et qui est paraphrasé, et c'est le texte, je vous ai donné la traduction française au texte 6 du Cantique de Frère Soleil, et aussi au numéro 7, après, scénario, vous voyez, par la bouche du frère Cicillo, de frate Cicillo, cette paraphrase du Cantique du Frère Soleil. Mais c'est une paraphrase qui substitue, disons, au sermo sublime, si on peut dire, disons, à l'italienne de l'ombri du texte de Saint François, le sermo humilis de Toto et son argot napolitain. Altissimo, onnipotente, bon signore, et ici c'est Saint François, quanto so contento che c'è il sole. Et c'est de l'argot plutôt romain que napolitain. Et quanto so contento che c'è pure l'acqua, perché chi è sozzo ce se lava la faccia. Etc., etc. C'est ce, on peut dire peut-être, parodie, mais surtout une façon de baisser le registre de Saint François, mais en les citant et avec une fidélité, comme je disais, littérale au texte de Thomas de Celano. Mais maintenant, on peut lire et faire référence au texte 5, voyons aussi des différences radicales entre la tradition de sermon aux oiseaux le film, l'épisode de Pasolini. On peut commencer par le texte 4 encore. Soit dans le film, soit dans le scénario, la scène s'ouvre de la mise en abîme franciscaine dans Uccellacci Uccellini, s'ouvre avec les mots de Saint François. Sont les mots que je vous ai évoqués. Voi che non volete sapere, etc. À la fin de ce sermon, qui dans la source est continué par Saint François, Saint François se tourne vers Totò e Ninetto et ils disent: perciò io do incarico a te, frate Cicillo, e a te, frate Ninetto, di continuare la predicazione agli uccelli. Je lègue à toi, frère Cicillo, et à toi, frère Ninetto, de continuer la prédication aux oiseaux. Voici une réécriture, un changement radical entre la source et le texte de Pasolini. Cette fidèle radicale n'empêche pas, dans le legs de l'œuvre de Pasolini, que la source est complètement changée. François confie au plus humble de ses confrères de continuer sa mission, son apostolat, parmi toutes les créatures. Et alors, nous pouvons continuer la lecture, toujours du scénario, mais ici le scénario coïncide avec le film, numéro 5. Vous voyez que c'est frate Cicillo qui essaye, disons, de réaliser cette communication universelle parmi les créatures qui est au cœur de la spiritualité franciscaine. Frate Cicillo, didascalia, le faucon, dans la première phrase, disent qui siete que volete, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous voulez, parce que Toto essaye de parler, et il emploie, on vous le verra dans le film, plusieurs temps, plusieurs saisons, pour trouver la langue des oiseaux. Ce n'est pas facile de parler avec les oiseaux, mais au bout de cette partie, François lui avait dit: tu dois commencer à prêcher aux oiseaux par les faucons, et puis prêcher aux oiseaux plus petits, parce que les faucons sont arrogants, etc. Les autres sont plus petits, sont humbles. Et alors, le faucon, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous voulez? Frère Cicillo, nous sommes créatures de Dieu. Nous voulons parler avec vous, qui vous êtes créatures de Dieu. Le faucon sibile comme une flèche sur la tête des deux, etc. Mais le dialogue est réalisé, et est réalisé par Toto, non par Saint François. Et aussi, en avançant dans la lecture du scénario, et c'est très important, sont Totò et Ninetto à faire expérience du scandale du mal au cœur de la création dans le film, ainsi que dans la strophe du Cantique de Saint-François consacrée à la mort. Vous savez que le Cantique de Saint-François a une partie finale radicale qui n'est pas toujours suffisamment souligné quand François, oui, ils disent il faut remercier Dieu pour Frère Soleil, la Sœur Lune, etc., etc., mais aussi par Sora Nostra Morte Corporale. C'est là le grand éclat du message du Saint François. Et ici, dans le scénario de Pasolini, fidèlement à ce legs, quand ils croient d'avoir terminé leur mission, Totò et Ninetto, voient quand Faucon se jette sur un oiseau petit et il le tue. Et donc, il retourne chez François, et François dit, parce que vous n'avez que commencé à prêcher aux oiseaux. Maintenant, vous devez leur expliquer que les classes sont en conflit, et François aussi parle avec le jergue et les arguments de l'idéologie. Et il se remet en chemin. Il se remet en chemin et ils le font en totale fidélité, toujours avec la tradition franciscaine, parce qu'ils le font avec obéissance et allégresse, dans le film de Pasolini, qui sont deux missions, deux qualités qui se réfèrent à la tradition franciscaine. Frate Cicillo, annamo a Ninè, si volta facendo a Ninetto all'occhito di seguirlo, c'est à la fin du texte sect dans l'exemplier. Les deux s'allontanent, on voit les épaules, le regard de Saint François lui suivent, affrontano quasi allegramente il loro nuovo dovere. Il se prend avec allégresse leur tâche, et, etc. Il faut dire, et c'est le texte 8, que dans la même année, 1976, Pasolini avait écrit un texte qui était longtemps inédit, qui était seulement récemment publié dans l'édition des Meridiani Mondadori, contre la télévisione, dans lequel il fait un long compte-rendu sur Saint-François pour la télévision, paru en 1966, San Francesco de Liliana Cavani, et il dit une chose qui nous explique cette choix de transformer de cette façon, comme du faucon au corbeau, de François à Totò et Ninetto, l'épisode du sermon aux oiseaux. C'est-à-dire, je cite la traduction française, ce Francesco de Liliana Cavani, c'est à la fin du texte, de la citation, n'arrive pas à être l'homme différent, c'est-à-dire le saint. Il reste comme les autres, c'est-à-dire, il a déjà dit, un petit bourgeois. C'est une instance, certes, laïque et démocratique, très louable dans le projet de Liliana Cavani, mais nous ne pouvons pas dire que cela puisse avoir un rapport avec la folle et sublime aristocratie de la religion. Magnifique, la folle et sublime aristocratie de la religion qui est incarnée dans son film 1966 par les derniers, par Totò et Ninetto. Eux aussi ne sont pas comme les petits bourgeois qui regardent le François de Liliana Cavani. Ils sont capables d'exprimer cette différence qui est la tâche de cette grâce et simplicité qui sont vertus religieuses de la sainteté. Nous ne pouvons pas dire que cela puisse avoir un rapport avec la folle et sublime aristocratie de la religion, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et voici, ce texte nous explique beaucoup de choses. Donc, aussi dans ce texte, dans l'acte de François représenté par Pasolini de léguer la mission, toujours la même chose, une extrême fidélité et la capacité de recréer, de transformer dans le legs de l'œuvre. Peut-être ce texte, et maintenant avec cette partie je conclue, c'est la troisième, ce film que, comme j'ai dit, représente l'acte même de légué lorsqu'il est l'héritier de la tradition franciscaine séculaire, nous indique quelque chose de très précieux à propos d'un autre thème. Et j'ai un peu d'hésitation à dire ça, parce que c'est un argument immense, mais j'essaye à vous donner quelques références. C'est immense parce que la bibliographie est immense. Comment hériter et comment léguer Pasolini? Pasolini est mort, vous le savez, en 1975, mais il y a déjà une bibliographie immense. Je vous montre maintenant, c'est un livre récent, du 2006, ce Pasolini oggi, Fortuna internazionale e ricezione critica, mais on pourrait évoquer vraiment une bibliographie qui foisonne toujours. Et aussi deux livres consacrés exactement à ce thème. En l'an 2009, L'eredità di Pierpaolo Pasolini, l'héritage de Pasolini, à cura di Guidi e Sassetti, Milano-Udine 2009, puis réimprimé dans l'an 14, et La nuova gioventù, point d'interrogation, c'est un titre pasolinien, L'eredità intellettuale di Pierpaolo Pasolini. On s'interroge sur ça. Mais on peut le faire, et j'essaie de le faire humblement ici avec vous, en faisant référence à ce que je vous ai montré dans les textes. Le film même, Uccellacci Uccellini, à propos de l'acte d'hériter et de léguer, est explicite dans la partie du corbeau. En citant une aussi trop célèbre, peut-être, phrase de Giorgio Pasquali, que je vous montre. Alors, j'ai la citation ici, je ne l'ai pas mise sur les impieds, mais vous pouvez la lire aux vidéos, ici, c'est important de le faire. Alors, on va l'agrandir, comme ça. Il faudrait faire la façon d'effacer cette partie, je ne sais pas. Mais je vous la montre, on peut la lire comme ça. Alors, cette phrase que Pasolini cite, c'est après que le corbeau soit mangé par Totò et Ninetto, c'est évoqué pour ça, cette phrase. Giorgio Pasquali, Le Università e la Cultura, 1941, c'est un essai de Pasquali paru dans les années 40, au début des années 40. Ils disent il faut manger son maître, les maîtres sont faits pour être mangés, c'est une phrase qui est devenue célèbre aussi par le film de Pasolini, à la sauce piquante. Donc il faut avoir le courage de manger les maîtres, de les supérer, de faire quelque chose d'autre. Il y a ce travail des générations, il ne faut pas se bloquer sur l'imitation, etc., etc. Et vous voyez, dans le scénario, il y a un panneau avec cette phrase qui est déjà un peu réécrite, réélaborée. C'est en majuscule parce que c'est un panneau dans le scénario, vous voyez, scénario. I maestri sono fatti per essere mangiati, pour être mangés à la sauce piquante. Donc, ça semblerait que voici la façon de hériter et de léguer. Il faut manger à la sauce piquante. Et il y a un livre qui est paru en 2010, un auteur qui est très connu en Italie, je ne sais pas, en France, un critique, Marco Belpoliti, vous voyez, par Guanda, Pasolini in salsa piccante. Il reprend cette formule, il consacre ce thème de la sauce piquante et de l'acte de manger les maîtres en chapitre du livre, et le livre est, disons, consacré à ce thème. Il faut manger, comme Pasolini même nous dit, manger Pasolini pour supérer Pasolini, parce qu'il y a trop de Pasolini, etc., etc. Mais cet auteur, je vous le dis très clairement, et je suis content d'avoir l'occasion de pouvoir le dire ici, contient beaucoup de sauces et très peu de manducations. C'est ça qu'il faut récupérer pour hériter vraiment aussi un auteur comme Pier Paolo Pasolini. Beaucoup de la sauce piquante, je ne veux pas perdre du temps à vous le montrer, beaucoup de la sauce piquante, mais pas du repas, pas du manducation, du texte surtout. Ce monsieur, Marco Belpoliti, n'a pas fait l'effort de comparer le scénario et le film. Et ça nous montre quelque chose de radical sur, disons, le travail de Pasolini sur cette phrase de Giorgio Pasquali qu'elle a citée. Parce que ce film représente l'acte de confier, de léguer, il hérite une tradition, etc. Dans le film, on peut imaginer qu'ils sont quelques semaines entre, qu'il ne passe que quelques semaines entre le scénario et le film, le maître n'est plus évoqué et devient i professori. Donc, Pasolini se refuse de manger le maître dans le film, dans la conclusion de l'élaboration de ce texte. Ils disent les professori. Il faut imaginer que c'est déjà un Pasolini qui voit arriver la contestation, le 68, avec tout ce qu'il a voulu dire pour lui, biographiquement et intellectuellement. Donc, le maître, le professori, vanno mangiati in salsa piccante, diceva Giorgio Pasquali. Puis, il ajoute ça, però, e c'è le corbeau qui le dit, chi li mangia e li digerisce, chi le mange e li digère, devient un peu professeur lui aussi. Ha, 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 ha. Et voici que le sens de la phrase a changé complètement. Donc, ce livre, ce n'est que de la sauce. Et je me permets de dire ça, c'est un tentative d'une manducation du texte, de la lettre du texte, pour savoir l'hériter et peut-être aussi pour le léguer. Et pour conclure, je vous ai montré ce livre sur la fortune internationale et la ricezione critica di Pasolini, qui considère la réception de Pasolini dans les langues européennes et non seulement, dans les arts. Il nous fait voir ce que j'ai appelé aussi, il faut le dire, un kitsch pasolinien, un Pasolini qui devient un peu l'emblème de tout et de rien. Il y a aussi, je n'ai pas le temps de vous le montrer, des apocryphes pasoliniens sur Internet. Mais il n'y a pas dans ce livre, et c'est le travail que j'ai confié à un élève à l'université, Alessandro Longhi, j'ai ici son travail, c'est une thèse de bachelor, il y a toute une légende laïque sur Pasolini comme protagoniste d'une littérature à sa fois. Et en prose, en poésie. Et on peut faire deux livres seulement avec ces textes, en assemblant ces textes. Et le travail qu'a fait mon élève, Alessandro Longhi, c'est de faire une anthologie raisonnée en cherchant les textes poétiques en vie et en mort de Pasolini, où Pasolini est en effet protagoniste, presque comme en Saint-François, du XXe siècle, comme enseigne laïque de cette hagiographie laïque. Et nous voyons que quand nous restons dans les poèmes en vie, il y a des poèmes magnifiques qui résument une bibliographie, le poème de Andrea Zanzotto sur Pasolini, poème magnifique dans le deuxième décennie de la mort de Pasolini de Giovanni Giudici. Par exemple, mais sont des témoins, sont des poètes qui sont des témoins. Il y a, je dois le dire, je dois vous le montrer, parce que c'est un peu la même considération, une certaine faiblesse dans cette hagiographie laïque, aussi en poésie, et ça c'est le dernier exemple que je vous montre. Alors, c'est ce texte. Alors, je dois vous dire, pour justifier cette citation, que cette thèse donnée et discutée à l'Université de la Suisse italienne termine avec un inédit qu'on peut trouver sur Internet d'un poète qui est très connu en France aussi, de la Suisse italienne, Fabio Pusterla, qui est un collègue à l'Université de la Suisse italienne, Via Trinchese, qui avait eu la générosité de donner, pour conclure cette thèse, son texte à mon élève, voilà, Via Trinchese. Et c'est ce texte que je vous traduis et que je cite. Alors, qu'est-ce qui met en scène ce texte? Vous voyez cette image. sur Internet est parue et dans les chroniques italiennes cette image d'un mur d'une ville, d'une rue de la ville de Lecce, avec une écrite qu'on peut imaginer néofasciste, pour ainsi dire, Pasolini appeso, Pasolini pendu. Et le poème de Fabio Pusterla, il est celui qui a fait la préface du Fabio Pusterla du volume dans la Pléiade de Philippe Jacotet. Dans un long poème, je ne cite que cette partie, mais longue la rue Trinchese, le cygne noir, vous l'avez vu, horrible sous les murs, Pasolini pendu, au pendu comme nous. Aujourd'hui, ici, pendu à l'absence d'un sang, d'un projet digne. Voilà, c'est de la poésie civile digne d'un poète connu qui connaît Pasolini, qui l'imite aussi dans des mouvances du texte. Mais lisons à la lettre Pasolini même, le dernier Pasolini de Trasumanar et Organizar, qu'il consacre. Il cherche cette aristocratie de la perfection, de la sainteté, dans des formes toujours plus humbles et plus simples de l'existence. Non pas Totò e Ninetto, 1966, mais ici, 1961, un chien qui est arrêté sur la route, aux marges de la route Prénestine. Je vous cite en tentative de traduction du texte de Pasolini. Aïe, le chien arrêté aux marges de la rue Prénestine, qu'il regarde ici et là avant de traverser la rue. Il n'a rien à redire, il accepte tout. Il n'a pas une dignité à défendre à cause de sa bonté. Voici donc ma conclusion. Renoncer n'est pas inférieur à l'héroïsme. La résignation n'est pas facile à traduire ce vers, n'a rien à envier à l'héroïsme. Mais ce n'est pas important, mon tentative de traduction, mais vous voyez, pour être fidèle à la lettre, il faut voir que Pasolini dise n'a pas de la dignité à défendre ce chien. C'est ici la dernière transformation de son héritage d'une spiritualité, d'une forme de la religiosité. Et alors, il faut comparer à ça le texte de Fabio Pusterla qui évoque le concept de la dignité. Mais je crois qu'il faut commencer à hériter Pierpaolo Pasolini avec une fidélité complète aussi à son lexique, à sa lettre, au corps de sa poésie. Merci.